Bonjour à chacun. Merci à Thibaut pour ce qu'il nous a apporté ce matin. On va rester dans le même registre. Vous avez certainement vu que depuis deux dimanches, juste avant le culte, il y a des réflexions qui s'affichent avec une petite question, quelque chose pour... je ne dirais pas c'est pour patienter, parce qu'il ne faut pas patienter là. Mais c'est pour se mettre un petit peu dans la réflexion de ce qu'est notre foi. Alors, c'est lié ou pas au message ou à l'intro, mais ça, en tout cas, ça sera suivi sur la base du credo. Donc, avec chaque fois une petite réflexion. C'est le deuxième dimanche, et il y aura une pensée différente chaque dimanche. Et ce dimanche, c'était « Je crois en Dieu ». Oui ? Oui, remets-le. Si tu l'as comme ça. Voilà. Voilà, par exemple, je crois en Dieu le Père. Voilà, ce genre de petite réflexion. Ainsi, nous pouvons l'appeler Père, mais nous sommes-nous vraiment sûrs d'être de ses enfants ? Petite réflexion pour s'aider à se mettre dans le culte et à réfléchir vraiment à ce qu'est notre foi. C'est bon, Rémi, merci. L'encyclopédie Wikipédia, que beaucoup utilisent, définit ainsi le christianisme. Le christianisme est une religion monothéiste issue de la prédication d'apôtres célébrant la vie et les enseignements d'un prophète proche du Proche-Orient nommé Jésus de Nazareth, surnommé loin, entre parenthèses, le consacré, en grec le Christ. Voilà comment Wikipédia définit le christianisme. Et ensuite, il est écrit plus de deux millénaires après, le nombre de chrétiens sur Terre, c'est-à-dire de personnes suivant ces enseignements de différentes manières, se situe vers 2,3 milliards. C'est pas rien, hein, parce que quand on compte la petite poignée qu'il y avait au début, mais répartis en près de 33 000 confessions différentes. Imaginez un petit peu, si c'est pas Dieu qui gère tout ça d'en haut, comment on va s'en sortir ? Les premières de ces confessions, continue Wikipédia, sont apparues au sein du judaïsme après la crucifixion de Jésus de Nazareth par les autorités romaines de la province de Judée au 1er siècle. Les chrétiens croient que ce Jésus de Nazareth est le Messie que prophétisait l'Ancien Testament et hormis quelques minorités de ces 33 000, donc, qu'il est le Fils de Dieu, à la fois de nature divine et de nature humaine. C'est intéressant comme c'est fait, ça nous sort un petit peu de notre cadre, à nous, bien à l'aise dans notre Église, avec nos pensées, à nous. Il y a 33 000 façons de faire déjà là. Les actes des apôtres, on revient dans la Bible, indiquent que le nom de chrétien signifie appartenant au Christ ou partisan du Christ, fut attribué aux disciples de Jésus, à Antioche, au milieu du 1er siècle, et on lit ça dans Acte 11, verset 26. Pendant toute une année, Saul et Barnabas se réunirent aux assemblées de l'Église, donc qui était à Antioche, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut ici, à Antioche, que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est l'origine du mot chrétien, donc. J'aimerais donc prendre ce matin avec vous quelques affirmations qui nous paraissent importantes sur la base de notre foi. D'abord, l'homme est un être qui croit. C'est un phénomène universel qui concerne tous les individus. Et ça, d'une manière totale pour tous les êtres vivants, pour entreprendre une action, n'importe quelle action dans notre vie de tous les jours, eh bien, il faut croire à la possibilité de la réaliser. Si on entreprend quelque chose et qu'on est sûr que ça ne va pas fonctionner, on ne va pas l'entreprendre. Donc on a besoin de cette foi dans le fait que ce qu'on fait est quelque chose qui va réussir. Croire est donc une notion indispensable et vitale pour l'individu quel qu'il soit, croyant ou non. L'homme peut ainsi croire en Dieu, en des dieux, ou en un tas d'idées qui vont devenir pour lui des sortes de divinités de substitution. Les philosophies, le progrès, le succès, la réussite, la richesse, la liberté, l'autonomie, la modernité, la science, La technique, l'environnement, l'épanouissement, tout un tas de foi ou de croyances que l'homme peut s'attribuer et s'en faire un propre Dieu qui va ainsi gérer sa vie. Ces croyances vont devenir volontairement ou à son insu les chemins moteurs de sa vie dans lesquels l'homme va se projeter, recherchant toujours leur aboutissement et les ressentant comme un but pour sa vie. Il y a deux points ici qui sont importants. C'est que l'homme est toujours obsédé par l'avenir, obsédé par son avenir. C'est pour ça qu'il va se tourner aussi vers la religion, mais aussi vers la voyance, l'astrologie, la curiosité de qu'est-ce qu'il y a demain, qu'est-ce que je vais devenir demain, qu'est-ce que je vais trouver demain. Et puis, à l'inverse, l'homme est aussi super curieux de ses origines. D'où est-ce que je viens ? Qui suis-je ? Pourquoi est-ce que j'existe ? Pourquoi est-ce que je vis maintenant et pourquoi je vais mourir tout d'un coup ? Qu'y a-t-il après la mort ? Ainsi, il lui est primordial de croire en quelqu'un ou en quelque chose. Qui que ce soit ou quoi que ce soit, c'est une pensée qui est dans le cœur de l'homme. Croire signifie ici le fait de tenir quelque chose pour vrai. Et ceci indépendamment de preuves éventuelles de l'existence de cette chose ou de cet être. Que ce soit rationnel ou pas, réaliste ou pas, réel ou impossible. Cette notion de croire est simplement un acte qui engage notre présent et notre avenir. Les religions sont justement bâties sur un ensemble de croyances et fonctionnent grâce à des dogmes ou à des doctrines auxquelles le croyant va volontairement adhérer. Le croyant deviendra alors celui qui a la foi, c'est-à-dire qui se situe dans un état d'adhésion réfléchie et active aux éléments fondamentaux que la religion va lui proposer. Mais le chrétien croit en Dieu. Voilà une affirmation. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Pour nous, c'est certainement une phrase qui nous paraît évidente, mais elle n'est pas moins mystérieuse pour beaucoup de nos concitoyens. Croire en Dieu, c'est pour bon nombre de personnes uniquement avoir dans un coin de sa tête la notion, plus ou moins vague, de l'existence de quelque chose, quelque part, qui s'appelle vaguement Dieu peut-être, et qui est en relation avec une institution qui a sa place là où il y a un clocher. Souvent, ça ne va pas plus loin que ça. Et la relation va bien souvent se résumer, parce que c'est comme ça, à prendre contact avec cette institution lors d'éléments de la vie importants que sont les naissances, les mariages, les enterrements, sans plus. Mais sans aucune démarche ni autre réflexion sur l'utilité ou le sens de ce que ça veut dire. En fait, pour beaucoup de personnes, cette notion de religion, de Dieu et d'Église, ça ne fait ni chaud ni froid, on y passe plus ou moins, c'est selon. Jean 14, 1 nous dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est d'abord croire que Dieu existe. Et le philosophe Pascal, qui était très radical dans sa pensée, a simplement voulu dire dans son pari que l'acte de foi n'était pas moins raisonnable pour beaucoup de choix et de gestes que nous faisons dans notre vie quotidienne et qui ne sont pas fondés en fait. On fait un tas de choses dans notre vie sur l'instinct, sur en fait parce que c'est rentable ce qu'on fait là. Mais reprenons les trois points du pari de Pascal. C'est très intéressant à se remettre ça dans la tête. Il y a trois points. Si Dieu n'existe pas, admettons, première hypothèse, Dieu n'existe pas, que je crois en lui ou que je ne crois pas en lui, ça ne change rien, j'ai rien gagné, j'ai rien perdu. Deuxième hypothèse, si Dieu existe et que je ne crois pas, là, je suis perdant. Troisième hypothèse, si Dieu existe et que je crois, là, je suis gagnant. Résultat des courses, il est de toute façon plus raisonnable et plus intéressant pour l'homme de croire en Dieu. Il n'a toujours quelque chose à gagner, il n'a rien à y perdre. Pascal s'arrêtait à cette idée-là. Hébreux 11 nous dit, au verset 6, « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » On va beaucoup plus loin là. On ne fait pas une hypothèse sur ce qu'il existe ou ce qu'il n'existe pas. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver dans la foi dans ce que Dieu existe toutes les réponses à nos questions, à toutes les choses que nous cherchons. La Palisse n'aurait pas dit mieux. Croire en Dieu, c'est d'abord croire qu'il existe. Bien sûr, difficile de croire quelque chose qui n'existerait pas, mais c'est aussi affirmer, attester de son existence tous les jours. Ça, au départ, c'est donné à chacun, à chaque homme, à chaque femme, à chaque enfant. Bien plus même, Jacques 2, 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu le fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Croyez en Dieu, croyez en moi, dit l'apôtre Jacques. Mais alors, est-ce que ça serait suffisant de simplement croire à l'existence de Dieu? Un point, c'est tout. Après tout, il y a beaucoup de personnes qui croient que Dieu existe, qui vont vous dire « oui, je crois en Dieu », mais qui ne vont jamais rien faire dans une relation avec ce Dieu, ou qui ne vont jamais essayer de se rapprocher, dire « tiens, si Dieu existe, pourquoi il y a des églises ?» Pourquoi il y a des crucifix dans les carrefours et qui ne vont jamais se poser ces questions-là? Vous me direz, c'est peut-être déjà bien de se poser, de simplement attester que Dieu existe, et peut-être que Dieu a mis cette foi toute simple, voire simpliste, dans le cœur de personnes simples. Ça peut exister, je le crois volontiers, mais cela ne s'applique pas du tout déjà aux personnes qui sont décrites dans les Béatitudes, dans Matthieu 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. » Non, ces personnes-là sont justement celles qui sont déjà allées plus loin, pour lesquelles le constat de leur pauvreté intérieure, de la pauvreté de leur vie intérieure, les a déjà amenées à aspirer à des vraies richesses pour leur âme. Et c'est certainement ici une des clés de notre foi, de la foi en général. Cela ne suffit pas simplement d'avoir une vague notion de Dieu. Ce n'est pas une simple idée perdue au milieu de rien du tout. La Bible, qui est sa parole, est certainement là aussi l'élément important qui va, par sa lecture, par sa méditation, nous amener à la révélation véritable de la relation nécessaire et intime et personnelle avec ce Dieu dans lequel nous croyons. Il ne s'agit pas simplement de croire dans l'existence, mais de mettre Dieu dans notre existence, ce qui est différent. Les textes, les histoires que nous lisons dans la Bible, les témoignages des exemples que nous trouvons, les enseignements qu'elle contient, vont petit à petit nous révéler la sainteté de Dieu et mettre en nous ce besoin de vivre sous cette sainteté. Imaginez une personne comme Job. Vous connaissez l'histoire de Job? Job qui était tout bien, tout honneur. Il n'y avait pas mieux que lui. On lui enlève tout. Il doit perdre toute sa famille, tous ses biens, tout. C'est Satan qui tente ça pour éprouver sa foi. Et Job dit, Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Qui saurait enseigner comme lui? Est-ce qu'on sait dans quel état on serait au bout d'une vie qu'on aurait qui ressemblerait à celle de Job? Job a vécu. Job a survécu en affirmant sa foi et sa confiance en Dieu. Vivre, affirmer qu'il est vivant et qu'il agit au-dedans et par nous, par son esprit. Psaume 42, 2. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Du Dieu vivant. Ce n'est pas du Dieu vivant là-bas, c'est du Dieu vivant là, ici. J'ai soif du Dieu vivant. En ouvrant le site de l'église jeudi, il y avait cette pensée de Calvin la foi repose sur la connaissance, pas sur une pieuse ignorance. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous restions bêtes dans notre coin. Dieu nous a appelés pour que nous devenions intelligents de l'intelligence qu'il met en nous par son esprit. Fondamentalement, donc, croire nous entraîne plus loin, plus, on a vu tout à l'heure, plus loin, bien plus loin. Cette relation de confiance, de personne à personne qui est la foi, nous fait alors entrer en contact avec Dieu et avec son esprit. Il en découle un partage qui se veut de tous les instants basé sur ses valeurs à lui. Écoute, partage, communion, amitié, amour, respect, action, mais tout cela géré par son esprit qui trouve ainsi toute sa place en nous. Et on a un tas de versets, j'en ai retenu deux, mais deux versets qui louent Dieu pour ce que Dieu a fait dans le cœur des hommes. Deux versets dans les psaumes, au psaume 116, « L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. » Ça, c'est des gens qui l'ont expérimenté dans leur vie de tous les jours. Et puis, dans le Deutéronome, ce verset, « L'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde. » Si Dieu est un Dieu de miséricorde, c'est qu'il s'adresse à nous. Il la garde. Elle n'est pas pour lui la miséricorde. Il n'a pas besoin de Dieu pour lui de sa miséricorde. La miséricorde est pour les hommes et pour les femmes. Et la miséricorde, c'est pouvoir retourner vers Dieu à tous les instants de notre vie pour lui refaire confiance. Croire aux vérités qui nous sont inculquées dans sa parole vont ainsi permettre à l'homme de découvrir et de recevoir de lui le sens de leur vie. Juste ce qu'il cherchait avant. D'où je viens, où je vais, qu'est-ce qu'il y a demain? Leur raison d'être, leur raison d'espérer, leur raison d'agir, leur raison de vivre. La foi devient alors en l'homme espérance, vie, action. Le contenu de la foi est donc premièrement confiance, totale confiance, abandon total de sa vie entière à Dieu, confession bien sûr de notre petitesse, de notre impuissance, et par conséquent, nécessité de nous en remettre totalement à Dieu et à son esprit pour le laisser nous façonner. La foi, c'est s'abandonner totalement à la fidélité d'un autre. Cet autre, c'est Dieu qui ne ment pas, qui ne déçoit pas. C'est témoigner que seul, je ne peux rien, mais que lui peut tout en moi. Méditez ces quelques versets qui sont autant de témoignages des auteurs à notre attention. Psaume 59, 9. « Quelle que soit leur force, » le psalmiste parle là des malfaiteurs, de ceux qui en veulent à sa vie, « quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. » Psaume 54, 4. « Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. » Psaume 145, Dieu est véridique, fidèle en tous ses actes. Dieu est lumière, Dieu est bon, Dieu est amour. Dieu nous appelle ainsi à construire notre vie avec lui et sur lui. C'est ça, croire en Dieu, être croyant, se dire chrétien. De Samuel 22, verset 3, Dieu est mon rocher. Je n'ai pas compté le nombre de fois qu'il y avait rocher dans la Bible, mais c'est une image qui est forte. Dieu nous propose un chemin de vie stable, solide, sûr, permanent. Mais cela est bien souvent plus facile à dire qu'à faire. Nous en sommes témoins tous les jours. Plus facile à dire qu'à vivre, plus facile à lire qu'à vivre. C'est pour ça que croire en lui, c'est avoir la foi, mais c'est avoir une foi totale en lui. C'est laisser son esprit guider, travailler notre vie à chaque instant et le laisser prendre ses rênes de notre vie. Croire en Dieu, c'est avoir une foi qui signifie confiance totale en l'action de son esprit en nous. Certitude que ses plans sont pour nous les plans qui sont justes et les plans qui sont vrais. Ainsi, nous pourrons d'abord adorer Dieu, bien sûr, avec nos simples mots, avec ceux dont son esprit nous aura remplis. Jean 4, 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Mais on ne peut pas l'adorer en esprit, en vérité, si son esprit et sa vérité ne sont pas en nous. C'est cette relation de confiance, donc, qui nous permettra de vivre comme des témoins de Dieu. Vivre pour le chrétien, c'est donc d'abord adorer et témoigner. C'est à une vie active, une vie d'action, que la foi nous appelle. C'est la vie selon l'Évangile, selon cette bonne nouvelle révélée aux hommes de bonne volonté à la venue du Christ, la nuit de Noël. Cette vie n'est possible que si cette relation de foi, de confiance, est établie avec Dieu. Et cette relation vient alors dans les deux sens, c'est-à-dire une relation d'échange mutuel, de partage mutuel, de questions, de réponses, d'enseignements, d'acceptation, de questionnement et de marche avec Dieu. Psaume 62,9, « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence, Dieu est notre refuge. » Ainsi, nous pourrons bâtir avec Dieu une relation forte et nous saurons où est notre demeure, d'où nous venons et où nous allons. Pour cela, en conclusion, j'aimerais faire ici deux rappels qui me semblent importants pour nous tous les jours. Le premier, c'est que croire en Dieu mobilise notre être tout entier, corps, âme et esprit. Et ça, pour Dieu, ce n'est pas un petit chantier. La foi fait ainsi, jour après jour, appel à notre volonté, à notre raison, à notre intelligence, à notre conscience, mais aussi à nos sentiments, à nos émotions, à notre perception, à notre corps, dans un équilibre que nous ne pouvons pas gérer nous-mêmes, mais que Dieu peut réguler, justement, par sa proximité, grâce à son esprit en nous. Et ça, c'est une action continue. Il n'y a pas le chrétien de la semaine et le chrétien du dimanche. Le projet de Dieu est que nous soyons tous les jours, ses enfants et ses témoins. Le deuxième rappel est que le chrétien ne croit pas tout seul. Là, il y a un petit jeu de mots, j'ai envie de dire, le chrétien ne croit pas et ne croit pas tout seul. Le premier, c'est le verbe croire, et le deuxième, c'est le verbe croître. Mais il se trouve que c'est la même chose en français, à la troisième personne. Le chrétien ne va pas pouvoir croire tout seul dans son coin. Alors, il peut y avoir des situations spéciales où un chrétien se trouve isolé, et Dieu va lui donner cette force, mais l'idée de Dieu, le but de Dieu, est que le chrétien ne soit pas seul. Et donc, le chrétien ne peut pas croire et croître tout seul dans son coin. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le chrétien s'inscrit dans une lignée d'hommes et de femmes. Et repensons à ce credo qui date du 1er siècle aussi, qui était le premier signe, la première confession de foi que les premiers chrétiens ont établie justement pour pouvoir dire au monde qui ils étaient, pour pouvoir avoir des bases de leur foi. Pouvoir dire, voilà en quoi nous croyons, en fait. Depuis la nuit des temps, des hommes et des femmes ont vécu eux-mêmes, bien avant nous, cette relation de foi et d'échange avec Dieu. Et cela va, bien sûr, au-delà de nos simples parents, grands-parents, arrière-parents. Notre foi s'inscrit à la fois dans une lignée historique de croyants, mais depuis bien avant que le Christ soit sur cette terre. Depuis bien avant. Donc tous les témoins qu'on a dans la première partie de la Bible sont aussi nos ancêtres. On dit les pères de l'Église, les premiers, les tout premiers qui ont manifesté, qui se sont engagés dans ce chemin avec Dieu. Une lignée de témoins depuis ses pères, avec les chrétiens d'hier, ce que la Bible nous donne comme exemple dans l'Ancien Testament. Abraham, Isaac, Jacob, suivez toute la liste, Moïse, Ésaïe, les prophètes, et puis les acteurs du Nouveau Testament. Les personnes nommées dans les actes des apôtres, on a parlé de Lydie ce matin, voilà une personne dont on nous parle de la foi dans la Bible et qui est associée à nous dans la même continuité. Ceux d'aujourd'hui, Je vais dire nous, mais pas que nous ici, ceux qui se réunissent à Saint-Genis, à Gex, à Genève, à Paris, dans les pays persécutés, dans les pays où il n'y a pas de liberté, dans les pays avec le décalage horaire, tous ceux qui sont en présence de Christ réunis pour le louer, et ceux de demain, les générations futures, et c'est important de les inclure aussi, si notre foi s'arrête à aujourd'hui, où est notre espérance? Où est l'espérance pour nos enfants? Donc les chrétiens, la vie de chrétien se vit dans cette continuité, non pas nous dans notre petit coin, mais ensemble avec toute une histoire très chargée, avec aussi les mêmes bénédictions sur tous ceux qui se sont tournés, qui se tournent et qui se tourneront vers Dieu. Le chrétien ainsi vit au sein d'une église universelle composée de tous les rachetés, ce sont là ses racines, ce sont aussi les exemples pour notre vie. Et c'est dans cette diversité qu'est la richesse de l'Église, l'Église de Dieu, l'Église universelle avec un grand E. Mais cela commence aussi par, bien sûr, par l'Église locale, le groupe de maison, l'Église terrestre où Dieu nous a guidés ici ce matin, par exemple, et où il nous invite à vivre ensemble, unis à lui, en recherchant, premièrement, son royaume, c'est ce que nous dit la parole. Ainsi Dieu reconnaît son Église et unit celle-ci et unit ses enfants, spécialement dans l'accomplissement de deux actes principaux qui sont importants pour notre vie personnelle et qui sont importants pour la vie de l'Église. Ces deux actes, ce sont le baptême et la scène. Et nous allons dans un instant prendre la scène, mais donc dire peut-être un mot sur ce qu'est le baptême par rapport à ça. Le baptême, c'est le signe public de notre foi et du témoignage de la personne qui est devenue croyante. Et dans ce baptême, on va inclure tout ce qui était dit ce matin, toute cette marche avec Dieu. Le baptême, ça n'est pas un aboutissement, c'est un commencement de vie. Donc une chose importante où Dieu reconnaît ses enfants dans cette acceptation que nous manifestons, nous, comme signe visible dans le baptême, mais qui est la conversion à Dieu. Donc ça, c'est le premier point important. Et le deuxième point, c'est la scène, et nous voulons partager ce repas maintenant. La scène, c'est le repas de partage et de communion. C'est Dieu qui invite ses enfants à venir à sa table, où justement, à cette table, nous allons pouvoir, individuellement d'abord, mais aussi en tant que groupe, témoigner de sa mort, de sa résurrection, mais aussi de l'espérance de son retour. Il y a là les générations passées, les présentes et aussi les futures. Mais c'est aussi partager ensemble cette communion et cette unité que Dieu met dans ce repas. C'est la même table, c'est le même corps, c'est le même sacrifice, c'est le même corps brisé, c'est le même sang répandu. Et c'est pour tous ceux qui croient en cela. Donc là, il y a une unité totale aussi. En prenant ce repas, je témoigne donc aussi que je participe à l'Église, à la grande Église, avec un grand E, et que je participe aussi à mon niveau dans mon Église locale. J'atteste avec mes frères et mes sœurs que c'est Dieu qui, par son corps brisé et son sang répandu, nous unit dans une communion avec lui et dans la communion entre nous. Alors je vous invite ce matin à prendre cette scène dans cette joie, bien sûr, de témoigner. C'est difficile de dire la joie de témoigner du sacrifice du Christ, mais dans la joie de cette résurrection et de cette annonce que Dieu gardera cette Église unie dont nous faisons partie jusqu'à son retour et que ce repas, c'est aussi annoncer ce retour et témoigner de ce retour. J'invite Thomas et Christiane à s'avancer pour distribuer. Et je vous invite à participer à ce repas dans ce sens de l'unité que donne Dieu et de son action et de sa communion entre nous.
Oui, Seigneur, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que c'est par ton corps brisé que nous pouvons être là ce matin. Parce que c'est ce signe que tu nous as donné toi-même de ta main. Ce signe de ce pain qui nous unit les uns aux autres. ici ensemble à Préfecin, mais aussi avec tous les chrétiens d'aujourd'hui et aussi les premiers chrétiens, tes disciples. Nous voulons te louer, te dire merci, Père, pour ton amour. Amen.
Paul disait aux Corinthiens, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange le pain et boive la coupe. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un tel esprit que nous tous, pour être un seul corps, nous avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Amen. Le sang du Christ a coulé à la croix, et nous voulons aussi le remercier pour cet acte sans lequel nous ne pourrions pas nous approcher de Dieu.
Seigneur Jésus, merci parce que tu as accompli un acte qui a scellé à jamais notre salut. Merci parce que par ton sang, tu as justifié que notre péché pouvait être purifié, et cela pour l'éternité. Merci Éternel parce que tu as permis que Jésus puisse accomplir cela jusqu'au bout, afin que tout soit accompli. Amen.
Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiant, nous avançons, non pas nos propres forces, mais seulement par ton sang.
Nous arrivons aux annonces. À la fin de notre culte, j'aimerais vous donner les annonces concernant les activités de l'Église cette semaine. Lundi, 20h30, répétition de la chorale à Saint-Genis. Ici, à 20h30 également, préparation du club d'enfants. Chez vous, chez Rebecca et Emmanuel. Mardi, 19h30, commission travaux, ici. Jeudi, c'est pour le Femme Club, 18h15, rendez-vous ici pour la soirée avec porte ouverte. Et puis samedi, nous avons notre samedi et dimanche, donc il y a le week-end avec la pastorale. Donc il y a plusieurs choses. Samedi à 11h, on aura besoin de bras, de quelques bras, samedi à 11h, pour mettre en place la salle Gaston Laverrière. On a besoin de monter notamment l'estrade. Et ça demande un petit peu des muscles, là. À 11h, il y en a pour une heure, hein, pas plus. 11h à midi, on monte l'estrade et on met les chaises en place. Donc, si vous êtes dispo, vous me donnez juste un petit coup de fil ou un petit mail. Ce serait sympa qu'on puisse savoir exactement qui il y a et qu'on puisse chercher du monde s'il en manque. À 13h, le groupe d'ados. Et puis, à 18h30, il y a une grande soirée pastorale pour les jeunes. Il y a une affiche au fond, il y a des papillons au fond. Prenez, distribuez. Il reste encore quelques papillons là. Ça fait, vous avez 18h30, vous serez en avance. Pas rater le début. C'est 18h30, hein, ok. Donc soirée complète avec repas, chant, film, débat, différentes choses. Il y a les programmes au fond là-bas, des petits trucs. Vous pourrez prendre aussi, inviter les... C'est vraiment pour tout public jeune, inviter vos copains, vos amis. Et on vous souhaite passer un bon moment aussi. Dimanche, notre culte à 10h, donc, à 10h. À la salle Jean Monnet, toujours à Prévesin. Il n'y a pas de culte ici, donc. À la salle... Oh, mais je vais y arriver ce matin. À la salle Gaston Laveillère. C'est tout à la salle Gaston Laveillère à Prévesin. Je vais y arriver. Et c'est marqué pourtant, hein, sur ma feuille. Donc, à 10h, et puis repas en commun à midi, repas canadien. On mettra tout en commun, donc, à midi. Et puis, l'après-midi, je vous rappelle, un temps de libre participation, tous azimuts, musique, chant, histoire, tout ce que vous voulez, simplement préparé pour pouvoir partager ça aussi pour le dimanche après-midi. Voilà, j'ai rien oublié pour cette semaine. Vous avez dû recevoir, ou vous allez recevoir, les convocations pour les assemblées générales qui ont lieu le jeudi 29 mars à 20h, ici. Juste vous dire qu'il y a une petite erreur. Il manque une page sur un des deux comptes rendus. On vous le fera passer par mail. C'est la deuxième page. Il n'y a presque rien dessus, mais il manque la deuxième page. On ne sait pas pourquoi elle n'est pas passée par mail. Donc, il vous manque ces pages-là. Vous nous excusez, s'il vous plaît. Et puis, on vous les fera repasser pour cette petite partie qui manque. Et puis, on a une super nouvelle cette semaine. Il y a une naissance. Voilà, on présente Mathieu Perronard, qui est né vendredi matin. Je ne le vois pas bien parce que ça brille, là. Petit bonhomme, on veut se réjouir avec Paul et Zoé et bien prier pour ce petit enfant aussi. En tout cas, on les remercie de nous avoir fait passer cette photo aussi. Mathieu Perronard, donc né vendredi. Vous donnez quelques nouvelles d'Anne-Lise. Si vous êtes allé sur le site, vous avez vu qu'elle a été hospitalisée cette semaine. Elle est en état de faiblesse avancée, Anne-Lise. Elle était hospitalisée. Elle m'a remis un petit mail ce matin où elle met donc... elle met déjà en entrée, je pense qu'en principe, je serai là à l'Assemblée Générale. Vous connaissez Anne-Lise, c'est d'abord ce qu'elle met. Hein. Donc, je suis à l'hôpital de la Tour, premier étage, numéro 105, etc. J'ai mis au fond ses coordonnées, vous pouvez les recopier pour l'appeler ou pour aller la visiter. J'ai eu 2 transfusions de sang, ce qui a changé totalement la situation. Plus de transfusions à présent, mais je vais avoir droit à beaucoup d'échographies du rein, du foie, etc. Je n'ai jamais eu ce genre de trouble, etc. Donc, Anne-Lise explique que ça va remonter, quoi. Mais ce n'est pas la première fois non plus qu'elle est dans cette situation-là. En tout cas, ça demande aussi nos prières et nos prières assidues pour Anne-Lise. Et puis, la visiter, c'est l'hôpital de la Tour, c'est facile, c'est pas loin. On peut se parquer facilement, donc profitons d'aller soit voir Anne-Lise, soit le faire un petit coucou. Pensons aussi aux autres personnes qui sont encore souffrantes. Pensons à Guylaine, qui est en maison de repos à Villaz. Vous avez aussi ses coordonnées sur le site. Hélène, qui est parmi nous aussi, qui remonte doucement la pente. Pensons aussi à elle. Abel n'est pas là ce matin aussi, il était fatigué. Il m'a dit qu'il y a une épidémie de grippe et de gastro aussi à Tougain, donc ce n'est pas simple non plus, vous imaginez. Donc on veut aussi penser à Abel et aux personnes âgées aussi. Spécialement. Et puis, on a reçu déjà depuis un petit moment, je vous les donne maintenant, deux faire-part de mariage, avec deux versets qui vont quand même dans le sens de l'espérance et de l'espoir dont on a parlé ce matin, et de remettre ces choses à Dieu. Le premier, c'est de Matthias Gezer, fils de Justine et Vili, qu'on voit de temps en temps ici aussi. Vengère. Oh, mais ça va bien aujourd'hui. Bon. Vengère. Mais je vois marquer Gezer en premier là. Alors, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Je le mets au fond, c'est en mois de mai, 12 mai 2012, je l'affiche au fond. Et puis celui-là, qui nous est cher, c'est le faire-part d'Emeline et de Cédric, donc ils se marieront le 7 avril. Avec un verset aussi, « Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. » Psaume 16, verset 11. Je mets ces deux faire-part au fond, vous pourrez les voir, ils sont pour l'Église. Voilà, j'espère que j'ai fini de bafouiller et de vous dire des bêtises. Je vous invite à vous lever et je vous lirai encore ce dernier verset. Que nous trouvons dans le début de l'épître de Paul aux Corinthiens, quand il envoie sa lettre aux Corinthiens, où il y a beaucoup de problèmes, il s'adresse à eux ainsi, « À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, ça c'est pour les Corinthiens, mais la suite c'est pour nous, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen.